Bien des gens, paraît-il, ne paient pas leurs impôts et traitent ceux qui les payent de poires et de ballots. Moi, je n'approuve pas ça, je dis que ce n'est pas permis. Et constamment, je demande aux parents, aux amis, as-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? Tes coupons des mines de gruyère et les pots de vin que tu as reçus? Tout ce que t'as gagné à la bourse, tout ce que t'as ramassé aux courses, ton 5% de tes caoutchoucs et tes fonderies de caramel mou et tes valeurs pétrolifères et ta fabrique de nouilles au jus. As-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? Il en est chaque année qui ne déclare rien, pas plus leurs 5 chevaux que leurs bonnes ou leurs chiens, afin de les forcer à faire tous leurs devoirs. Je dis à tous les gens que je vois sur le trottoir, as-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus? T'es de Larbin, ta cuisinière et ta villa d'Honolulu. Ton cheval et ta bicyclette, ton frotteur et ta trottinette, ta clarinette et ton piano, ta DSF et ton cabot, et l'or que t'as sur les molaires de ton vieux jardinier barbu. As-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus?
Vous écoutez Radio Campus Lille, une chanson de Georges Milton. Il est midi, nous sommes le mercredi 6 mars 2013. Je vous rappelle les résultats du concours lancé lors de l'émission précédente. Donc le premier à la corde Findus, le second Buitoni, en bon troisième les produits alimentaires IKEA. Tous les autres concurrents suivent très groupés afin de gagner la fameuse course du caddie. Alors l'émission, cette semaine, on va...
L'émission précédente, il faut rappeler que c'est un magazine qui a lieu tous les premiers mercredis du mois.
Voilà.
Et avec un invité de marque, c'est Benoît Boussemard, et avec qui on fait un peu le tour de l'actualité...
économique, les bons calculs économiques.
qui concerne donc... aujourd'hui, je crois que l'actualité est bien riche, Benoît.
L'actualité est particulièrement riche, puisqu'on a eu le droit, coup sur coup, à des élections en Italie qui sont assez particulières.
Exit Monti,
sur Goldman Sachs, la rigueur et tout ce qui va avec. Je veux dire, la gestion de la crise italienne sera très particulière, donc on va suivre ça de près. Et surtout, il y a des manifestations hier contre un projet de loi qui serait discuté aujourd'hui.
Ça, c'est en France.
Nationale en France, c'est le fameux accord Annie. Qui a été signé que par quelques syndicats, qui a été refusé par des syndicats majoritaires. Et cet accord Annie est particulièrement dangereux.
Tu veux qu'on en dise deux mots?
Ah oui, j'aimerais bien qu'on en dise deux mots, parce qu'il y a des gros soucis à se faire.
Parce qu'ils nous l'ont vendu, les médias, ils nous l'ont vendu.
Non mais c'est comme d'habitude, je reviendrai après sur un autre sujet avec les médias et ceux qui sortent, mais là on a depuis plusieurs mois, avec ces négociations qui avaient commencé par traîner beaucoup, parce qu'on n'arrivait pas à s'en sortir, et qu'on a trouvé quelques petits points positifs pour essayer de sortir une situation et pouvoir signer pour quelques-uns. Et donc, les grosses difficultés qui viennent devant nous, c'est ce qu'on disait déjà aussi à quelques émissions de ça, c'est le détricotage du droit social.
Du code du travail.
Et notamment du code du travail, parce que ces accords-là vont permettre effectivement aux grandes entreprises et aux petites surtout de faire un peu n'importe quoi dans le domaine du droit social et notamment sur les questions de licenciement, sur les questions de rémunération, etc. La chanson parlait de déclarer son salaire. Ouais, c'est intéressant de déclarer son salaire. Encore faut-il en avoir un et encore faut-il pouvoir défendre ces droits qu'on a si chèrement acquis. Je veux dire, ça fait des années maintenant qu'on est en train de détricoter ça. On attendait ce type d'accord sous Sarkozy, on l'attendait pas du tout sous Hollande.
Sarkozy l'a rêvé, c'est Hollande.
Voilà, Hollande l'a réalisé. Donc
c'est toujours ce que fait le PS.
C'est très souvent ce que fait le PS, et donc il y a un vrai problème là, notamment sur, je disais, deux points qui sont fondamentaux. Le premier point fondamental, c'est la défense des salariés sur l'emploi lui-même. C'est la question
de exit le CDI aussi.
Voilà,
à terme.
Donc il y a bien des gros soucis sur la possibilité de lutter contre des licences licenciements sans véritable cause économique, puisque maintenant, on va pouvoir dégager des salariés sans trop de difficultés en un temps minimum.
Donc là, c'est... Et sans recours possible.
Et sans recours possible.
Ou, disons,
très, très limité. On peut déjà regarder comment réagissent les avocats, comment réagissent les juristes spécialisés dans le droit du travail. Ils sont en train de dire à tout le monde... Mais,
c'est un manque à gagner pour eux.
D'une part, c'est peut-être un manque à gagner, mais c'est surtout une catastrophe pour les gens qui n'auront plus de recours contre des licenciements abusifs, puisque là, on vous propose quoi en définitive ? On vous propose... Bon, vous êtes salarié. Il n'y a pas de travail. C'est quand même terrible. En France, on est dans un pays où il n'y a pas de travail parce qu'on est soi-disant pas compétitif. Donc pour vous rendre compétitif, on va vous licencier. Ah bon, mais comment je peux être compétitif ?
Ou baisser votre salaire.
Je suis licencié. Ou baisser mon salaire. Si je ne veux pas baisser mon salaire, de toute façon, c'est un licenciement pour motif...
Ou te délocaliser.
On délocalise tout ce qu'on
veut. Ou aller te faire bosser au Maroc pour 137 euros par mois.
C'est beaucoup
en
mieux
Pologne,
comme ça, d'ailleurs.
En Pologne, hein,
c'est une nouvelle possibilité de faire quelque chose assez facilement. Bon. Donc... Le licenciement, on ne pourra pas véritablement lutter contre, puisqu'on va vous proposer, comme on disait tout à l'heure, un contrat de travail qui va être particulièrement flexible. C'est la flexi-sécurité sans la sécurité, en fait. Donc la flexibilité, elle devient de plus en plus totale. On avait tout en France pour la flexibilité, contrairement à ce qu'on raconte. La flexibilité est totale en France pour le droit du travail.
Depuis la loi des 35 heures.
Il y a des CDD en pagaille, il y a l'annualisation du temps de travail, il y a des temps partiels. Je veux dire, on a des stagiaires outrants dans toutes les entreprises qu'on paye avec des élastiques
quand on les
paye.
La
fonction publique, c'est plein de vacataires, etc. Il y a de la flexibilité totale. D'ailleurs, quand on regarde les baisses d'effectifs, on voit très bien que les baisses d'effectifs ont été extrêmement importantes. Si on continue à perdre des emplois, c'est bien parce qu'on peut licencier. Le problème du MEDEF, c'était on licencie, mais ça coûte cher. Donc maintenant, on va pouvoir licencier sans que ça coûte cher, puisque de toute façon, on vous proposera quelque chose de très simple. On parlait d'annualisation du temps de travail. Là, on va faire de l'annualisation des licenciements. C'est-à-dire, on va vous dire, vous êtes tous d'accord, puisqu'on est des partenaires maintenant. Hein, on va devenir une social-démocratie libérale.
Des partenaires.
Comme il faut. Et on va être partenaire entre le patronat d'un côté...
L'esclave et le maître.
Et les salariés de l'autre. Je ne parle même pas des organisations syndicales, parce que je ne sais pas comment ils vont faire pour organiser tout ça dans les petites entreprises, dont ils parlent beaucoup d'ailleurs. Mais... Quand on est dans un système où, effectivement, on va vous dire, bon, il y a un problème de compétitivité en ce moment, notre carnet de commandes est à plat, etc. Bon, je parle pas d'Auchan, hein, il y aura toujours des possibilités de vendre.
Mais... Oui, mais enfin, si on n'a plus de salaire, faut encore avoir la possibilité d'acheter.
Non, mais je reviendrai là-dessus.
Il y a quand même les fluctuations du marché.
On pourra s'endetter, alors.
Voilà, vous pourrez vous endetter, il y a
la variation saisonnière.
La France n'est pas encore un pays où les ménages sont trop endettés par rapport à ce qu'on connaît partout ailleurs dans le monde. Hein. Donc on a encore des marges de manœuvre dans ce côté-là. Et on a des marges de manœuvre ailleurs dans d'autres domaines. Hein. Et donc quand on est dans un système où on va vous dire, pas trop de commandes, il faut lisser à tout prix l'activité, donc on va permettre aux entreprises de faire quoi ? De baisser tout simplement le temps de travail, mais en même temps de baisser les salaires. Donc ça, c'est un acquis fondamental pour le patronat. On va vous dire, mais il y a une limite, c'est 2 ans. On a vu ce que ça donnait dans beaucoup d'entreprises. Hein. On a demandé des sacrifices, un, sur la baisse du temps de travail, deux, sur les rémunérations, deux... Et là, paradoxalement, c'était pas parce qu'il y avait pas assez de travail, c'était parce qu'il y avait beaucoup de travail qu'on demandait aux gens passer à 30, de 35 à 39 heures, voire faire 42 heures, mais payer toujours 35 ou payer encore moins.
Sans heures sup, ouais.
Donc on était dans des systèmes où, bien évidemment, ce qui était en question, c'était pas tellement la compétitivité. Ces entreprises en question faisaient souvent des gros profits et elles étaient mondiales, donc... Quand on regarde par contre les trois quarts des petites entreprises, les trois quarts des petites entreprises sont attachées au sol. Elles se délocalisent pas, elles. Elles rendent souvent des services aux populations qui sont les populations du coin. On le voit très bien. Là, on a beaucoup discuté. On parlait de Findus dans le concours, là, et puis d'autres marques. On voit très bien que, par exemple, il y a des coopératives de petits agriculteurs qui se... fédèrent pour proposer des produits locaux à une clientèle locale.
Pour mutualiser les services.
Pour mutualiser les services, pour avoir des produits de qualité, etc., qui ne sont pas ceux qu'on retrouve dans la grande distribution.
Mais les petits agriculteurs qui ont beaucoup de mal à trouver des terres autour des villes.
Absolument.
Il n'y a qu'à voir, par exemple, à Seillanois, là, donc la petite commune s'est lancée dans une opération de promotion immobilière. Les habitants de Bondu vont pouvoir venir habiter à Sailly.
Oh, c'est chouette, ça.
Il y a des changements sociologiques.
Donc on est parti des accords pour arriver aux petits agriculteurs.
Non, mais
je suis désolé.
C'est extrêmement important parce que les agriculteurs sont directement concernés. Et toutes les petites entreprises dont le seul point positif pour l'accord consiste effectivement à la mutualité qui va pouvoir être ouverte à ces petites entreprises. Donc il y aura un petit acquis social là. On est en train de vendre avec ce petit acquis tout le reste qui est particulièrement
un cheval une alouette.
Et donc on est en train de faire exactement ce que souhaitait le patronat, et Parisot a bien entendu gagné tout ce qu'elle voulait là-dessus. D'ailleurs, elle se représente.
Le
MEDEF qu'elle avait théoriquement pas le droit de se représenter au bout de ses mandats qu'elle avait fait.
Change la loi, change le règlement.
Bah oui, mais une loi c'est fait pour être assez souple, et d'ailleurs elle fait montre de beaucoup de souplesse envers tout le monde, hein. Elle demande beaucoup de souplesse aux salariés encore plus qu'avant. Donc on est sur des protections qui vont être complètement mises à mal, et surtout on n'aura pratiquement plus de délai de recours, etc. Et les salaires vont être tirés à la baisse, bien sûr.
La mobilité.
Mais bien entendu.
Refuser la mobilité, boum, licencié.
Bah oui, c'est un motif vous devez être flexible, mobile, permettre au capital de se valoriser à un taux maximum. C'est quand même ça.
Alors, on est en chanchon, il y a quand même un petit point sympa peut-être, ou qui n'est pas trop négatif, c'est les complémentaires.
Voilà, c'est ça. Le seul petit point assez intéressant, c'est effectivement les complémentaires. On le voyait bien sur le complémentaire santé pour les entreprises de moins de 50. Bon, ceci étant, si j'ai bien compris aussi,
il faudra
un accord de branche. Donc,
ça fout en l'air le concept.
C'est très très difficile dans ce contexte-là de voir comment ça va s'appliquer, surtout que les petits patrons sont très très bien organisés aussi dans ce domaine-là.
Oui, enfin les complémentaires, c'est ce qui remplace une partie de ce qui était remboursé avant par la sécurité sociale, je sais pas vraiment s'il y a un gain.
Le problème, il est là, c'est-à-dire qu'on est en train de compenser avec des soi-disant accords de progrès social des défaillances sociales de plus en plus importantes partout, au nom de la rigueur pour l'État, au nom de la rigueur pour les entreprises, au nom de la rigueur qui est payée par tout le monde, qui est payée par les salariés, qui est payée par les gens qui payent des impôts, parce que bien évidemment on continue à frapper beaucoup de fiscalité tout le monde, et donc on est sur un système qui est en train de faire l'austérité.
On avait raison d'être dans la ruée.
Pour presque tous. Presque tous.
Ah oui, pardon. Excuse-moi. On va y revenir après dans le deuxième sujet.
Arrêtons, vrai.
C'est vraiment ça, mais.
C'est une émission sérieuse, quand même.
C'est une émission sérieuse. Quand on regarde ce que ça a donné en Italie, veux dire que Hollande, pour les prochaines élections municipales, doit commencer à devoir se poser un certain nombre de questions. Tout au moins, ses élus locaux. Hein, je pense pas qu'on ait habilité à proposer, à réélire
des élus locaux. Une petite question de structure et de mécanisme. Les accords, ils sont signés entre... Moi, j'utilise pas du tout ce mot de partenaire, disons, entre les adversaires sociaux. Pourquoi faut-il passer par la loi ?
Il faut passer par la loi parce que, pour l'instant, dans le Code du travail, rien n'est organisé dans ce domaine-là. On est sur un système où il y avait des syndicats, et donc on peut court-circuiter ainsi en plus les syndicats.
C'est ce qui est passé, d'ailleurs.
Bah oui. Et donc, à partir du moment où les syndicats sont court-circuités, on peut faire des accords d'entreprise qui permettent effectivement de faire tout et n'importe quoi avec des partenaires tout à fait officiellement admis par l'entreprise elle-même.
Donc la loi est censée protéger.
La loi est censée protéger, bien sûr, puisqu'on est obligé de faire un certain nombre d'accords théoriquement. Mais avec qui on fait des accords ? Je veux dire, quand on voit, par exemple, que dans le groupe Auchan, il y a la CFTC qui signe tout et n'importe quoi, parce que quand Gérard Meunier demande à signer pour la CFTC...
Les syndicats maison.
Bah oui, il y a plein de syndicats maison.
Les salauds.
Dans des grands groupes. Et par contre, on voit bien que dans les petites entreprises...
Dans l'automobile, c'était la CFT dans le temps.
Bah oui, il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu des syndicats qui étaient des syndicats maison. On le voyait bien chez Michelin, etc. Je veux dire, dans tous les grands groupes français, il y a eu des syndicats. Il continue à y avoir des syndicats maison.
Il y a Marc qui demande la parole.
Oui, voilà. Non, mais on peut dire qu'effectivement, le syndicat CFDT, pour ne pas le citer, et tous ces petits syndicats dont
satellite.
On parle aussi, satellite, ne représentent même pas que 30% au niveau des élections prud'homales. Donc, en fin de compte, on fait passer une loi ou un accord avec
un
syndicat qui nous représente.
Il n'y a pas d'accord.
Attention, ici, il faut bien comprendre que pour l'instant, il y a un accord entre quelques partenaires sociaux. Il y en a qui ne sont pas du tout d'accord, d'ailleurs.
Sur les 5,
il n'est pas d'accord. FO n'est pas d'accord, par exemple. Et on voit très bien que, pour que cet accord soit validé, notamment pour changer un certain nombre d'articles du Code du travail, parce qu'il faudra les changer, les adapter, les articles du Code du travail. Par exemple, pour la protection en cas de licenciement, actuellement, c'est une procédure qui prend du temps, où on fait appel à un expert, etc., où on peut se faire représenter par un avocat, où on est défendu. Donc il y a des tas de choses qui sont rendues possibles pour les salariés qui veulent se défendre, Et c'est pas toujours évident pour une entreprise de justifier un licenciement économique. Il faut encore pouvoir dire qu'il y a un véritable motif économique.
Encore un peu de protection, on va dire.
Et donc quand on arrive à prouver qu'il n'y a pas de motif économique, je veux dire, derrière, les salariés ont des recours importants, notamment au prud'homme, pour obtenir des indemnités qui sont des indemnités très différentes des indemnités purement légales. Je veux dire, si Auchan commence à licencier et qu'on garde les bénéfices d'Auchan, je veux dire, il y aura beaucoup de difficultés, quelque part, pour le groupe Auchan, de prouver qu'il y a un licenciement pour motif économique. Hein. Autant le dire...
C'est donc, un bon exemple.
C'est un bon exemple, mais c'est vrai aussi pour Sanofi, par exemple. C'est vrai pour des tas de sociétés comme ça, qui sont en train de détruire des emplois, et en plus des emplois qui sont de plus en plus qualifiés. On prend Sanofi. Madame Bettencourt est devenue première mondiale.
Elle est revenue première. Hein.
Elle est revenue première devant Arnaud. Première femme mondiale devant une des héritières Walmart. Encore la grande distribution, puisqu'ils sont quatre à se partager le
magot. Ça, c'est le hit parade des...
C'est le hit parade Ford.
Du pognon.
Et donc, le hit... on disait qu'il y avait quand même quelques riches encore. Hein.
Oui, voilà.
Il y a 200 milliardaires, 210 milliardaires de plus cette année que dans le précédent classement. 210.
C'est la crise.
C'est forcément la crise.
C'est la crise.
Oui, c'est la crise.
Milliardaires.
C'est la
on ne sait plus quoi faire avec les milliardaires.
Bah, c'est forcément la logique de la crise. La plus-value, on l'a toujours expliqué. La plus-value, c'est la différence entre le salaire qu'on paye et la valeur qu'on crée. À partir du moment où on paye de moins en moins cher les salariés, bah, c'est évident qu'il y en a qui s'en mettent dans les poches et ça s'appelle des profits. Et les profits s'accumulent et ça donne des milliardaires supplémentaires chaque année.
Ouais,
les profits
mais ne ce qu'ils ne savent pas, c'est que survalorisation... Après, dévalorisation du capital.
Mais
c'est là que la crise arrive.
Mais c'est périodique. D'ailleurs, on l'a vu. On a eu des crises de dévalorisation qui ont été très importantes avec, dans le domaine de l'immobilier il y a une dizaine d'années. Encore maintenant, il y a eu la crise, effectivement, qu'on a connue en 2008-2009.
Spéculation.
On a eu une petite crise ici récemment, mais qui n'est pas encore conséquente. Quand on voit que les bourses sont en train de remonter à une vitesse grand V sans aucun motif... Il y a même des motifs d'inquiétude beaucoup plus importants qu'on croit. On risque encore une crise de ce style-là. Mais ceci étant, donc, les partages font qu'il y a un gros souci, quoi.
Bon, Benoît, on a encore d'autres sujets à traiter, mais je crois que les accords, on aura l'occasion d'y revenir.
Ah bon, on aura l'occasion d'y revenir, notamment parce que, je commençais par l'exemple italien. L'exemple italien est un très bon exemple.
Puis il faut toucher nos députés, parce que c'est eux qui vont voter.
Évidemment.
Et ils veulent y aller à la
vitesse
grand V.
Et c'est ça que je voulais préciser tout à l'heure. La loi n'est pas encore votée.
Ouais,
et donc, il peut y avoir beaucoup de modifications, et s'il y a des pressions importantes qui sont faites partout pour modifier ce texte, qui est un texte qui est mauvais, cet accord est mauvais, il faut bien évidemment le faire.
Voilà.
Alors, donc, avis à nos députés, chérie.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
Et il faut se bouger.
Voilà.
Une petite pause musicale. On rit jusqu'à la banque. Une chanson de Zébulon.
Plus sournois qu'une horde de chats si à moi. C'est pas grave, c'est légal. Puis on en arrière de nous autres, les plus grands avocats de Montréal. Hey! Ben, je le sais que c'est gluant, que c'est écœurant, ce que notre usine dégueule dans le fleuve Saint-Laurent. So what, on s'en fiche tant qu'on est riche. Qu'on a encore ben du caviar à mettre dans nos sandwichs. Pendant qu'on nous étende des poursuites, pendant que les environnementales essaient de nous descendre, nous autres on rit jusqu'à banque. Nous autres on rit jusqu'à. Comme je dis à mon fils qui se fait pitcher des roches dans le cours d'école par les enfants d'un journaliste. bande, c'est parce qu'on rit jusqu'à bande.
Zébulon, canadien, on rit jusque la banque. Vous écoutez Radio Campus Lille, LBCE, les bons calculs économiques. Alors, une petite annonce quand même à propos de calculs économiques. Les amis du monde diplomatique vous invitent ce mercredi 6 mars à 20h au cinéma Le Méliès. Donc c'est ce soir, hein, rue Trudaine à Villeneuve-d'Ascq. Projection du film de Gérard Mordillo, Le Grand Retournement, adapté de la pièce de Frédéric Lordon, D'un retournement à l'autre. Comédie sérieuse sur la crise financière en quatre actes et en alexandrin. Cette projection sera suivie d'un débat avec Laurent Cordonnier, que vous connaissez.
Les économistes intérêts.
Ouais. Voilà, c'est la crise, la bourse dégringole, les banques sont au fond de la faillite, le crédit est mort, l'économie se meurt. Pour sauver leur mise, les banques font appel à l'État et l'État est soudain devenu le sauveur. Les citoyens paieront pour que le système perdure, que les riches restent riches et les pauvres pauvres. Voilà, donc c'était la présentation.
Oui, c'est simplifier un peu les choses, ça.
Hein. Oui, mais bon, c'est, après tout, c'est
il
une comédie.
Les banques.
C'est une comédie en alexandrin. Les banques et les entreprises. Donc pour sauver les entreprises,
c'est voilà, quand même elles qui donnent ton emploi. Attends. Voilà. Donc si les entreprises ne créent pas d'emplois. Hein, qui est-ce qui va donner du travail aux pauvres, franchement?
Bah oui, il faut des patrons.
Des patrons, bien évidemment. Donc,
on avait le même réflexe.
Dans un système capitaliste, par définition, il y a deux classes. Donc il y a bien une classe qui travaille et une classe qui exploite. Donc,
deuxième sujet d'actualité, Benoît, que tu voulais traiter absolument, un truc que je vais découvrir, ça s'appelle Mako Pharmacie.
C'est ça. Donc moi, j'ai reçu, il y a deux jours de ça, un mail indiquant qu'il devait y avoir des licenciements dans un groupe qui s'appelait Mako Pharma. Mako Pharma, ça ne dit pas grand-chose à personne, sauf que c'est encore
dis-nous
une
tout.
Petite société qui appartient à des membres de la famille Mullier, plus précisément à des membres qui gravitent autour de Gérard Mullier, puisqu'il y a Gérard Mullier, il y a son frère Patrick, etc. Donc il y a trois Mullier qui
Vianney.
Sont en dehors du groupe Mullier même. C'est-à-dire que, par exemple, sur la constitution du groupe Mullier, nous, on n'a pas mis Mako Pharma, parce que c'est trois choses qui appartiennent uniquement à ces trois frères-là. Bon. Alors c'est quoi un groupe Mako Pharma? C'est un groupe qui est dans le textile. C'est encore une convention textile.
Historique.
Historique, parce qu'elle appartenait à un entrepreneur textile et que c'est la famille Mullier qui l'a racheté, enfin ces trois-là. Et elle produit des poches de sang à partir de fibres et de textiles chimiques. Donc elles font de la filtration, notamment pour filtrer tout un ensemble de choses sur le sida.
Donc c'est quelque chose de très pointu.
C'est quelque chose de très pointu et donc...
Qui ne concerne pas trop le grand public.
Si, bien entendu. C'est vendu dans tous les c'est utilisé par tous les hôpitaux pour
filtrer. Enfin, nous, on ne va pas acheter des poches de sang.
Ah, tu n'achètes pas des poches de sang, mais...
on les achète pour toi.
Voilà, on les achète pour
et
toi
on les paye.
Et c'est très important et tu les payes. Bien
la sécu les paye.
Et donc Mako Pharma est implanté partout dans le monde via des sociétés commerciales. C'est une multinationale. Hein.
C'est un gros truc.
C'est un gros machin. Et donc cette société-là produit en France, mais a délocalisé, parce qu'il faut bien avoir de la main-d'œuvre moins chère, en Pologne et en Tunisie.
Non.
Et donc, depuis quelques années, donc, on voit tous ces bénéfices. Elle continue à faire des bénéfices.
Ça concerne combien de personnes?
Ça concerne à peu près 800 personnes, hein, quand même. C'est donc une société moyenne assez conséquente, je veux dire.
Donc combien en France?
Sous effectif, en France, la moitié à peu près.
400.
Et donc, on a une grosse unité de production ici qui est près de Tourcoing.
Ah bah c'est...
Donc, une grosse unité française qui fabrique. Et on a, tout un ensemble de sociétés. Donc ces sociétés-là gagnent de l'argent. c'est le cas type où on va avoir des licenciements dans une société qui gagne de l'argent. Alors, ceci étant...
Il n'y a pas d'action.
Il n'y a pas d'action, bien évidemment.
La femme Mulier, on ne fait pas d'action chez Mulier.
Il y a quand même des actionnaires salariés, comme d'habitude, pour faire mettre ça. Et il y a deux cas d'actionnaires salariés. Il y a des actionnaires salariés belges, il y a des actionnaires salariés français. Et tous les deux contrôlent une petite partie du groupe qui s'appelle GMPB, groupe Macopharma Belgique. Bon. Donc la structure est en Belgique. Alors ce qui est intéressant, c'est deux choses par rapport à ça. C'est que la première, comme d'habitude, je n'ai pas de chiffres depuis 2009. Top secret, 2010-2011, pas publié, 2012 pas encore, mais ça c'est plus normal. Et il n'y a pas surtout de données consolidées. Donc on ne sait jamais combien ce groupe gagne réellement d'argent.
Donc tu ne peux pas aller fouiller là.
Là on peut fouiller quand même un certain nombre de choses. Quand je dis qu'il y a du bénéfice jusqu'en 2009, c'est bien que le holding de tête GMPB en Belgique a gagné constamment de l'argent depuis une dizaine d'années entre 1999 et 2009.
Donc a priori, il n'y a pas de raison que ce soit...
Et qu'il a accumulé quand même pas mal d'argent en fonds propres, et donc il n'y a pas de raison fondamentalement économique à licencier qui que ce soit dans cette société pour l'instant.
Or, c'est ce qui va se passer.
À ma connaissance. Or, c'est ce qui serait en train de se passer. Donc il y a un souci. Alors le souci, il est probablement lié aux délocalisations qui étaient en train de se faire vers la Pologne et vers la Tunisie. Donc... on est toujours dans un système où il faut chercher les salaires les plus bas, alors que ce sont des choses assez pointues. D'ailleurs, le groupe Mulier, il investit énormément dans le domaine de la santé. Il investit dans des start-up qui s'appellent par exemple AB Science. Hein. Vous avez une start-up qui s'appelle AB Science. Et cette start-up, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille sur de la recherche fondamentale sur le cancer. Et donc, ils commencent à développer des molécules, et c'est important.
En recherche privée.
Recherche privée, bien évidemment, financée par des capitalistes. Et on retrouve notamment aussi Casino là-dedans, le groupe Casino de Naouri. Donc, entre grands distributeurs, on est en train de se faire... on s'occupait de la santé future. La santé est rentable. Hein,
la santé marchande.
Donc, il y a autre chose qui est important. Ils ont investi également dans Mauna Kea Technologies. Vous connaissez?
Bon, ah, tu nous fais tout découvrir, là, Benoît.
Ça va être une société extrêmement importante, puisque au lieu de vous ouvrir pour faire des analyses ou des choses comme ça, ou de vous envoyer des seringues, on va pouvoir fouiller au niveau pratiquement de la cellule avec la nouvelle technologie qu'ils sont en train de mettre en place, et pour voir si vous avez, par exemple, des cellules cancéreuses, des tas de choses comme ça. Et donc, on a des formes d'appareillage qui vont permettre des analyses très poussées sans être agressives. Donc là aussi, il y a des brevets qui sont en train d'être exploités, en liaison d'ailleurs avec des systèmes de japonais pour la photographie des...
Ouais, c'est de l'imagerie, ça.
Donc c'est de l'imagerie médicale.
Il doit y avoir de la thune, là, derrière.
Ah, là, derrière, il y a énormément d'argent aussi. Donc il y a ça. Alors après, vous avez bien entendu, si vous êtes un petit peu en bon point, etc., il y a ces produits. Vous connaissez ces produits non plus? C'est quelque chose qui donne dans...
ces produits.
Compagnie européenne de diététique. Donc, vous savez, les régimes amaigrissants, des trucs comme ça, donc c'est en train d'être lancé. On retrouve quelquefois des corners dans des magasins qui gravitent autour de groupes Auchan. Donc, on est, et même de chez les concurrents.
C'est pas de la pharmacie, ça, c'est de la para ou...
C'est de la parapharmacie, ouais, puisque. Mais la parapharmacie est en train de se développer à un rythme, ici, à deux chiffres, hein, en France et en Europe. Alors, autre chose qui est importante, c'est vous avez aussi une société qui est intéressante. Et qui s'appelle, au niveau de l'entreprise et du groupe Mulier, GMF. Alors, vous connaissez GMF ?
La garantie mutuelle des fonctionnaires, moi, je connais.
Non, voilà. C'est pas ça. C'est le groupe maison de famille.
Familiale.
Ah, et donc, c'est la gestion par la famille Mulier des caisses de retraite. Pas des caisses de retraite, des maisons de retraite, pardon.
Ouais.
Et donc, ils ont conquis en quelques années la quatrième place française des maisons de retraite. C'est-à-dire qu'eux ne gèrent pas une maison de retraite. Hein.
Il y en a une ici à Villeneuve, d'ailleurs.
Oui, il y a ça, mais c'est encore autre chose. C'est encore des sociétés supplémentaires qui sont contrôlées cette fois-ci par le groupe Mulier, directement. Toutes ces sociétés-là sont contrôlées par le groupe Mulier. Et elles sont en train de développer le concept de maison de retraite, avec tout ce qu'il faut derrière, avec des niveaux intéressants de rentabilité. Et elles ont déjà développé des filiales en Belgique, mais qu'elles ont fermées parce que le partenaire n'était pas fiable. Et elles ont développé des maisons de retraite en Italie. Donc, Dolce Vita pour tout le monde après,
c'est
quand
un
on
gros
aura
truc
le troisième âge. D'accord. Donc là aussi, quelque chose qui est en train de se développer, qui est extrêmement rentable. Donc, la famille est en train d'utiliser des fonds. On disait souvent qu'on a des bénéfices extrêmement importants au niveau du groupe. Ces bénéfices importants, on les retrouve et il faut les placer. La question... comme pour tous les capitalistes.
Question naïve encore, justement, ouais. dans un groupe comme le groupe Mulier, qui, d'après ce qu'on découvre encore une fois de plus, c'est des trucs énormes. Ils ont le droit de faire circuler le pognon comme ça entre leurs différentes...
On est dans un système d'économie de marché capitaliste libre. Et sans, on est libre d'exploiter.
Sans payer de pognon, sans payer d'impôts
sur le capital. Là, en plus, c'est des choses extrêmement intéressantes pour eux, puisque très souvent, c'est aidé financièrement, parce que c'est de la recherche fondamentale. Donc là, des aides qui sont données.
Des aides publiques.
Des aides publiques qui sont données, bah, c'est important. Bah oui, hein, c'est des entreprises qui n'ont pas beaucoup d'argent au départ.
Moins d'État, moins d'État, sauf pour les propres
pognons. Donc on est dans un système où de la recherche fondamentale, comme on ne peut plus la payer avec le système public, on parlait tout à l'heure des problèmes du public. Ouais, mais le problème du public...
Et pour cause.
On avait tout à l'heure l'idée qui est importante, que la sécurité sociale, il y a de moins en moins de choses remboursées, etc. On sait très bien que du côté de la recherche, c'est la même chose. Éducation, recherche, santé sont des secteurs où l'État se désengage. Il se désengage partout. Parce que, bien évidemment, quand on prête aux banques, comme tout à l'heure on disait avec la pièce de l'ordonne, à un moment donné, on ne peut pas prêter à tout le monde. Donc il y a des coupes qui sont faites et il faut rembourser en plus. Et les banques vous imposent de rembourser dans certaines conditions. Donc jackpot pour tout le monde, sauf pour nous. D'accord.
Sauf donc, le confond de payant.
Et donc, la recherche universitaire, quand même, elle est très mal en point quand on regarde de près.
Bah, évidemment.
Et dans le domaine de la recherche fondamentale, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place comme modèle? C'est toujours le fameux modèle capitaliste traditionnel, comme aux États-Unis, à savoir on va avoir des systèmes de fondation, on va avoir des entreprises privées, on va avoir une articulation qui va se faire via la recherche publique par quoi? Par des contrats. Les sociétés en question vont gérer des fonds qu'elles collectent. Quand on a des fonds en place, c'est bien, parce qu'en plus, c'est en défiscalisation très souvent. Et ensuite, ces fonds vont être distribués à un certain nombre d'équipes de recherche. Pourquoi? Pour faire les recherches qui vous intéressent.
Bien choisi, bien sûr.
Et donc, ces recherches qui vous intéressent, vous, ce sont des recherches qu'on peut avoir en tête.
Recherche appliquée.
Avec, bien évidemment, une recherche appliquée rapide.
Et rentable.
Et rentable, bien sûr. Quand on recherche sur le cancer, c'est quelque chose qui est, a priori, quelque chose de rentable. Quand on fait des recherches sur l'imagerie médicale, c'est la même chose. Donc on est dans des systèmes où on substitue de plus en plus des fonds privés à des fonds publics qu'on ne trouve pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la gabegie ailleurs, envers le privé en plus. Donc il y a des interstices partout dans la société où le capital privé est en train d'investir à fond et investir pour de plus en plus contrôler l'ensemble du système. Tout ce qui était du domaine public est en train de partir progressivement.
Tout ce qui était rentable du côté...
Tout ce qui était rentable, peut être rentabilisé.
Après, rentabilité, effectivement, les laboratoires pharmaceutiques sont d'une rentabilité extraordinaire.
Sanofi...
En sachant qu'ils ne travaillent quasiment plus que sur des déclinaisons de leurs anciens médicaments, ce qui fait que ça n'importe plus grand-chose. Là, la nouvelle intéressante que tu nous donnes, c'est qu'ils travaillent sur des nouvelles molécules.
Bien sûr.
Mais c'est rarissime, il y en a très très peu qui le font.
Et en recherche fondamentale, c'est rare.
Voilà.
Et donc, la question de fond, par exemple, c'est après l'indépendance de la recherche, etc. etc. Pour faire vraiment de la recherche fondamentale, ça coûte très, 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 très cher. Je ne parle même pas des labos d'économie ou des labos de sociologie, etc., qui, eux, sont réorganisés en fonction des intérêts des gens qui commandent des études qui sont faites pour ça. Moi, je vous commande une étude pour dire que l'ANI, c'est quelque chose de bien. Vous allez quand même sortir que l'ANI, c'est quelque chose de bien, sans quoi je vous finance plus. Après.
Donc, au bout du compte, c'est quand même le public qui finance.
Bah oui.
Donc leur force de ces bandits, le mot est peut-être faux, c'est d'aller réussir à aller pomper le pognon public
partout
pour faire tourner leur truc de recherche privée.
C'est ce qui se fait partout.
C'est le modèle dominant au niveau du capitalisme. Il n'y a pas de secret. Quand on regarde les systèmes, par exemple, les systèmes de recherche informatique, j'ai jamais oublié que l'informatique, elle est née de la guerre. Donc, de fonds publics qui étaient investis.
Le plan calcul.
Pas seulement le plan calcul, mais aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est
comme ça. Et en Allemagne.
En Allemagne aussi. La conquête spatiale, elle a commencé en Allemagne quand même.
Oui, bien sûr.
Et donc, on est sur des systèmes comme ça où l'articulation publique-privée se fait avec des investissements lourds dans le public ensuite et est rentabilisé par le privé après.
Alors, il y a le grand mythe aussi des risques que prennent les financiers, les investisseurs, les spéculateurs. Mais ils ne prennent aucun risque, ils travaillent avec notre pognon.
C'est évident qu'ils ne prennent aucun risque. Je veux dire, il peut y avoir des risques individuels, c'est clair. Donc, par exemple...
Ça, c'est toi, quand tu achètes une action comme un gland à ta banque, c'est toi qui prends des risques.
Je veux dire que toutes ces sociétés-là ont une caractéristique, c'est qu'elles sont partiellement mises en bourse. Donc... On peut émettre, et il y a eu beaucoup de problèmes comme ça avec ces start-up. Les fondateurs ont créé les start-up et ont revendu les start-up, souvent relativement chères,
la bulle
au public. Quand on regarde, je ne sais plus c'était quel système qui avait été vendu aux États-Unis là, et qui a l'action a baissé du jour au lendemain.
Facebook.
Ouais, Facebook.
C'est Facebook, carrément. C'est-à-dire un flop monumental.
Du jour au lendemain, les gens, ils avaient payé le titre, je ne sais plus combien, sur une basse 100. Ouais. Le lendemain ou sur le lendemain, c'était 40. Et ça n'a pas remonté depuis.
Ah bah non, sur un jeu de
et donc, c'est un jeu où, effectivement, de spéculation, où ceux qui se sont mis plein les poches, ce sont ceux qui ont organisé la spéculation. Voilà, avec
ceux qui possèdent les règles du jeu. Bah, et qui déterminent les règles du jeu.
Ils possèdent les règles du jeu et ils contrôlent les règles du jeu.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Donc on est dans un système, là, vraiment, où la start-up ayant été faite, on vend ça. Et souvent après, bah, les petits actionnaires n'ont que leurs yeux pour pleurer. Hein.
Et ça,
on a vu des tas de cas où ça s'était passé comme ça, hein, et qu'il n'y a aucun recours possible. Vous êtes libre d'acheter vos titres.
Hein. Ouais. Je t'empêche et de les
pas
garder.
Je t'empêche pas d'acheter des titres et avoir des
bouts de papier. Même... Bon
en plus, avant, on avait encore des bouts de papier comme avec les emprunts russes. Maintenant, c'est
mais même des beaux dessins.
C'est du virtuel maintenant.
Non, c'est totalement virtuel.
Donc... Revenons à Mako Pharmacie.
Donc, Mako Pharmacie, donc. Problème, on ne peut pas dire pour l'instant s'il y a un motif économique ou pas, puisqu'ils ne publient pas leur compte.
Donc il y a 50 licenciements en
Donc il devrait y avoir, puisque l'information, je n'ai pas pu la vérifier, enfin, il devrait y avoir des licenciements de façon importante par rapport à une société, et probablement pour des questions de délocalisation.
Voilà, ça c'était le deuxième point d'actualité que tu voulais traiter. Je crois qu'il y a un troisième point qui te tient à cœur.
Oui.
Il y en a
alors,
deux même encore.
Une dernière petite nouvelle, je suis tombé là-dessus la semaine dernière. Donc, à propos de l'Outre Nechin est un puits, puisque c'est juste à côté, une nouvelle du 27 février à 8h54. Donc mardi soir, les riverains de la rue de la Reine Astrid sont venus exprimer leur opposition au projet de MAS, maison d'accueil spécialisée, pour handicapés qui ne cadre pas, estime-t-il, avec la ruralité du village. Ils étaient une bonne cinquantaine à s'être mobilisés, alors qu'il y avait cinq places qui étaient prévues pour les gens qui voulaient s'informer.
Il y a les maisons de retraite.
Ah, alors donc, donc les promoteurs y croient, il s'agit d'une MAS, une maison d'accueil spécialisée pour handicapés, hein, déclare Philippe Jacob, docteur en médecine, qui avait présenté le projet. Ils ont reçu l'agrément de l'agence Wallonne pour l'intégration de la personne handicapée côté belge, et de l'ARS, agence régionale de santé côté français. Donc ce serait une résidence pour 75 personnes. Elle soignerait les patients atteints du syndrome de Korsakoff, c'est-à-dire des troubles neurologiques suite à des excès d'alcool. Alors c'est un promoteur privé. Bon, pour le promoteur, les listes d'attente sont énormes.
Il y a de la clientèle.
Le bourgmestre promet des créations d'emplois. Bon, est-ce une diversification de la famille? On a quand même des camarades qui enquêtent sur le sujet. Une petite chanson
Attends, je voulais... Parler de la Belgique, on va peut-être prendre des nouvelles d'un qui s'est fait bananer en Belgique, il s'appelle Bernard.
Tout à fait, ça c'était mon dernier sujet.
Après la pause musicale.
Après la pause, c'était mon sujet suivant, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire encore.
Tu pourrais faire une petite chanson.
Voilà. Ouais, une petite chanson.
Et on retrouve Nono après.
Soviète en crête, une de perdue, 10 de retrouvée, tu sauras plus où donner de la tête. Moi je crains rien, j'ai pas de minette, mais pour les voyages, je suis pas net, je suis malade en voiture, j'en mets partout, c'est répugnant. Dans les vides poches, la boîte à gants, les cendriers sur le volant, je suis malade en voiture, mais j'y peux rien, c'est la nature, je suis malade en voiture, non j'y peux rien, c'est la nature. Coiffé comme un dessous de bras, t'as perdu ton emploi, t'étais ambulancier, je crois. Moi je voulais être chauffeur de luxe, mais c'est un boulot qui ne va pas. Je je passerai pas sous le pont de l'Alma. Je voulais être chauffeur de Diana, mais je suis malade en voiture. J'en mets partout, c'est répugnant. Dans les vides poches, la boîte à gants, les cendriers sur le volant. Je suis malade en voiture, mais j'y peux rien, c'est la nature. Je suis malade en voiture, non j'y peux rien, c'est la nature. Ça va pas, tu tiens à peine debout. Tu t'es fait jeter ton groupe de rock parce qu'ils aiment pas le biniou. Mais rassure-toi, tu sais mon gars, c'est pas bien mieux pour nous. On sort pas du Nord, pas de Calais, on s'éloigne jamais de chez nous. On est malade en voiture, on en met partout, c'est répugnant. Dans les vides poches, la boîte à gants, les cendriers sur le volant. On est malade en voiture, mais on n'y peut rien, c'est la nature. On est malade en voiture, on n'y peut rien, c'est la nature. On a pris des médicaments,
quelle catastrophique.
L'homéopathie est calmant,
quelle catastrophique.
Digestif et tranquillisant,
quelle catastrophique.
On a essayé tous les traitements, rien de tel que les sacs plastiques. Quand on est malade en voiture, malade en voiture. Laissez les carreaux ouverts, laissez-moi un petit peu.
Vous écoutez Campus, et comme le premier mercredi du mois, eh bien nous retrouvons notre invité Benoît Boussemard, avec qui on parle de l'actualité économique, sociale, un peu politique. On vous rappelle aussi que si vous prenez cette émission en cours, comme toutes les autres émissions de Campus, vous pouvez nous réécouter sur le site de Campus, et ce, pendant 2 mois, nous réécouter, nous télécharger www.campuslille.com.
Et faites une recherche sur les émissions LBCE, il y a une page qui reprend les principales émissions avec pas mal d'informations.
Merci André, c'est vrai. Et tout ça, c'est gratos, bien sûr.
Voilà, absolument. Alors, c'est assez exceptionnel pour qu'on le dise. Et on peut l'utiliser librement, donc voilà. C'est quand même important. Dès qu'on fait quelque chose maintenant, on
la
est
manie
obligé
de
avec les manies des droits d'auteur, des bêtises comme ça. Donc je veux dire, bon, on arrête aussi avec ce domaine-là. Alors oui, je voulais un petit peu parler de... On parle d'actualité toujours.
Bien sûr.
D'une double allure d'actualité de Bernard Arnault.
Salut Nadar.
Je disais tout à l'heure que Madame Bettencourt avait dépassé...
Salut
Liliane. Dans le classement Forbes cette année, Bernard Arnault qui passait en deuxième position des Français. Donc on a Bernard Arnault qui se fait doubler par Madame Bettencourt.
Ça reste en France.
Qui est toujours là, malgré des déboires judiciaires mais assez bizarroïdes.
Bizarroïdes, mais en fait, c'est son petit-fils qui gère indirectement maintenant la
Ils ont réglé leur histoire de famille.
Avec voilà. Un montage juridique assez complexe, mais...
Ils ont bien verrouillé le truc.
Le truc est totalement verrouillé, il n'y a aucun
problème. Heureusement, la famille...
Il n'y a plus de l'avenir de Madame Bettencourt.
Non. C'est pas le sujet.
On ne va pas la retrouver à Neschin dans la...
Dans la maison de retraite.
Dans la maison de retraite. Pour spécialisé. Alors, Bernard Arnault, c'était sa première actualité, donc problème, il est passé en deuxième position, c'est quand même grave pour lui. Les banquiers vont devoir commencer à réfléchir sur la réalité de sa fortune. Bon, on plaisante quand même un peu.
LVMH.
Deuxième chose extrêmement importante, c'est que Bernard Arnault, s'est délocalisé en Belgique, tout le monde le sait. Et dans ce contexte-là,
sa personne physique,
surtout sa fortune quand même.
Ah aussi.
Et donc, il y a eu un très bon article de notre camarade Marco Van Est, qui était dans la presse belge, mais on n'en parle pas dans la presse française, c'est assez bizarre quand même. Et la presse belge faisait ce grand titre, Bernard Arnault n'est pas un réfugié fiscal. Et dedans, il y avait M. Dalibaud qui était interviewé. Alors Denis Dalibaud, c'est le délégué général pour la Belgique des intérêts de la famille Arnault. Et on le retrouve un petit peu partout. Et notamment, on le retrouve dans des sociétés comme LVMH Finance Belgique, parce qu'il y a aussi une société LVMH Finance France. Et on le retrouve justement dans les sociétés qui ont été créées pour favoriser l'exil fiscal de Bernard Arnault. Alors Bernard Arnault, dans ce contexte-là, disait, et Dalibo reprenait les arguments, mais Bernard Arnault a toujours été en Belgique. Et il citait comme exemple la société Le Peignet. Quand on regarde Le Peignet, c'est vrai que Le Peignet est en Belgique depuis bien longtemps, puisqu'il faisait du peignage de laine. Mais ce n'était pas avec Bernard Arnault. Bernard Arnault, il n'était même pas encore né quand ça existait. Et cette société Le Peignet, elle a été rachetée dans le contexte du rachat du groupe Puyot avec la compagnie Donc ça n'a strictement rien à voir avec les activités dans la laine de Bernard Arnault. Il n'a jamais été dans la laine pour quoi que ce soit. Donc il récupère peut-être de la lanoline pour faire les parfums avec ses sociétés de parfums Dior, mais c'est tout ce qu'il récupère.
Je crois qu'il a été plutôt dans la soie que dans la laine.
un mélange de soie et laine, ça fait quand même chic, hein.
Mais carré,
regarde,
la soie.
Donc ça, c'est quand même pas mal. Bon. Donc, premier type de mensonge, il est en Belgique depuis des lustres. Bon, quand même, faut pas pousser. Deuxième chose, par exemple, petit exemple qu'on retrouve dans pratiquement tous les journaux. Il parle des intérêts notionnels. On a déjà parlé beaucoup des intérêts notionnels. Et le justificatif, c'est M. Bernard Arnault, par exemple, avec la société LVMH Finance Belgique, paye 10 millions d'euros d'impôts.
En France ?
En Belgique. Et donc, c'est faux. Les intérêts notionnels ne permettent pas de ne pas payer d'impôts. Alors moi, j'ai regardé un petit peu, bien entendu, la société LVMH Finance. Et LVMH Finance, c'est quand même quelque chose d'intéressant. LVMH Finance, combien a fait de bénéfices LVMH Finance ? Il a fait, en fait, 110 millions de bénéfices.
Oh.
Et il paye 11 millions d'impôts. En France,
un petit 10%. Comme Bettencourt.
LVMH Finance gère plusieurs milliards d'euros de financement dans cette société en Belgique, plus de 9 milliards. Et ces milliards-là gèrent toute la trésorerie de tout le groupe LVMH mondial. Donc on est dans un système où il a délocalisé toute sa trésorerie, où avec cette trésorerie, il gère tout ce qui est au niveau mondial pour l'approvisionnement des filiales, etc., y compris éventuellement des sociétés de Bernard Arnault elle-même, sans qu'on sache où c'est. Là encore, je disais, Gérard Meunier n'a pas publié ses comptes depuis 2009, Bernard Arnault non plus d'ailleurs. On ne sait pas où il en est. Et on ne sait pas où l'on est pour un certain nombre de choses. Donc les intérêts notionnels, comme indique M. Dalibo, c'est vrai. Il a raison, il a payé 11 millions d'impôts en Belgique. Mais sauf qu'il n'en a pas payé 100 millions supplémentaires par rapport aux gains qu'il a fait. On est sur un système d'intérêt notionnel qui commence à être sérieusement discuté en Belgique maintenant, parce que bien évidemment, les Belges, la justificatif, mais c'est on est présent en Belgique, etc., on est des grands consommateurs. Je pense que André a visité il y a récemment bâtiment dans lequel se trouvait LVMH Finance. Il a dû être un petit peu surpris de voir la modeste demeure que ça représentait. Hein.
— Oui, c'est une modeste demeure, un petit pied-à-terre dans un pauvre petit quartier à côté d'Ixelles. Hein. Donc c'est 383 Avenue Louise, si mes souvenirs sont exacts. L'avenue la plus chère de Belgique.
— C'est les Champs-Élysées.
— Alors vous pouvez y rentrer, effectivement. Et vous voyez qu'au 15e étage, il y a les plaques pour LVMH Finance Belgique, LVMH
c'est une chambre de bonne,
Publica. Quoi. C'est mais l'annuaire des sociétés n'est certainement pas à jour. Vous pouvez monter au 15e. Hein. Ouais. L'entrée est quasiment libre. Bon, peut-être au 15e, on vous demandera ce que vous faites. Mais alors, curieusement parlant, dans cet immeuble, on va publier la photo sur le site de Radio Campus. On trouve par exemple EDF Investissement Groupe.
Bien sûr.
Hein, bien sûr.
Intérêt notionnel.
Intérêt notionnel. Lazare Frères Gestion. Lazare SPRL. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y en a un
Les banquiers français, quand même, ils aiment bien la Belgique.
C'est donc un paradis fiscal, la Belgique.
Westinghouse, même chose, oui.
Agrium Europe. Le consulat, il y en a un qui ne doit pas toucher d'intérêt notionnel, c'est l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite.
Ouais, mais là, c'est des gens modestes. Hein,
c'est des gens modestes. Ils occupent.
Ils ont mis leur tente là et puis on en parle.
Voilà, tout comme le consulat et le consulat général de Colombie dans cet immeuble, c'est à peu près tout ce qu'il y a qui ne doit pas toucher. Effectivement.
Non, mais on n'oserait pas faire ça.
Mais des noms, Hitachi LTD, Excel Intérim, Excel Carrers. Equant Belgium, je ne sais plus
donc,
ce que c'est.
Tous des enfin, braves gens, des philanthropes.
Que des philanthropes,
c'est
des braves
que
gens.
Que des gens de bonne compagnie, en fait.
Voilà.
Donc, quand il y a un grand dîner, on peut s'y retrouver gentiment. C'est un beau pied-à-terre.
Voilà, mais bon. Si vous vous promenez du côté de l'avenue Louise à Bruxelles, allez-y, poussez la porte, rentrez, montez, il n'y a pas de problème.
Donc, André, j'avais regardé ta photo, elle était jolie, mais j'ai quand même pas retrouvé mes deux sociétés de délocalisation de Bernard Arnault. Or, là, ils y sont bien.
Il faudra que je monte au 15e.
Ah, il faut que tu montes au 15e, parce que là, on est avec la fameuse société où il a délocalisé tout son argent, là. Alors, son argent est délocalisé à hauteur de 3 milliards et des poussières, quand même. Hein. Donc, quand on regarde les... Oui, attends, je parle d'en euros, on n'est plus en anciens francs, quand même. Hein.
Non, c'est
que
des dollars.
Non, c'est pas des dollars. Donc,
c'est un français, quand même.
Sa fortune est bien délocalisée en Belgique. Il vient de publier, là, ses comptes, parce qu'il a été contraint pour ses demandes, et je reviendrai sur sa demande de naturalisation en Belgique, parce que ça, c'est important. Il vient de se faire ramasser partout, par tout le monde. Et donc, troisième actualité de Bernard Arnault, c'est celle-là. Donc... Pour terminer ça, sa petite fortune personnelle qui concerne quand même pratiquement 64% du groupe Arnault SAS. Donc 64% de son holding personnel qui contrôle toute sa fortune.
Donc ça c'est perso ça.
Ça
c'est son patrimoine.
Son patrimoine à lui, 64% du capital de groupe Arnault. Et maintenant, dans cette société...
Il paye l'impôt sur la fortune là-dessus
Kinevest. Bien entendu que non.
Parce que c'est en Belgique.
C'est en Belgique, c'est fini.
D'accord.
De toute façon, il ne payait jamais d'impôts en France. On avait fait une petite émission il y a 3-4 mois là-dessus, où j'avais fait des calculs en indiquant que, contrairement à ce qu'on disait, Groupe Arnault ne payait pas d'impôts, mais que l'État lui reversait des crédits d'impôts.
Bon, voyons.
Jusque 2009, à peu près de mémoire, je pense que Groupe Arnault avait récupéré du fisc français plus de 80 millions d'euros.
Un imposable négatif.
Voilà, un imposable négatif, parce que bien entendu, avec les cascades de sociétés, au plus on remonte dans les sociétés, au plus on bénéficie de crédits d'impôts. Donc vous avez intérêt à faire cette cascade. Et l'autre grand gagnant, c'était son grand camarade Pinault, qui faisait exactement la même chose. Hein. Bon. Donc là, on est à 3 milliards d'euros, un petit peu moins en gros, mais comme il y a des manips entre certains types de titres en usufruit, en upropriété, etc., c'est un petit peu plus que ça devrait être évalué.
Oh, c'est à la louche, quoi.
C'est à la louche, les 65%, mais bon, on a une bonne petite idée de sa fortune maintenant. Donc ça, c'est bel et bien en Belgique. C'est bel et bien fait... Comme pour toute la famille Mullier, on parlait tout à l'heure de la famille Mullier, c'est bel et bien fait, comme pour la famille Mullier, les délocalisations d'un certain nombre de membres de la famille.
Pour échapper à l'impôt en France.
Pour échapper à l'impôt en France.
Ça, c'est clair.
C'est
ça.
Patrick Mullier, c'est Jean Mullier, etc. C'est les frères de Gérard. Je répète bien ici, parce qu'on le dit souvent, et Gérard, il revient à l'envie là-dessus, Gérard est bien en France. Il ne s'est pas délocalisé, il n'a pas besoin de ça, puisqu'il gère son patrimoine en tant qu'industriel et en tant que grand distributeur. Donc il fait de la gestion. Et quand on fait de la gestion dans les sociétés qu'on contrôle, on ne paye pas l'impôt sur les sociétés, c'est sur la fortune, c'est l'outil de travail. D'accord ? Donc c'est une clause d'exonération de l'impôt sur la fortune. Donc il ne paye pas l'impôt sur la fortune non plus quand même. Il
faut le rappeler aussi ça de temps en temps.
Donc il travaille toujours. Il a un âge avancé. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il va reprendre sa retraite, mais manifestement, il n'est pas prêt de prendre sa retraite. Par contre, Gonzague Mullier est aussi en Belgique avec ses sociétés particulières, etc. Tapis Amaclou, il ne procède pratiquement plus rien de Tapis Amaclou. Maintenant, il a investi dans une société qui s'appelle Vision, avec un partenaire turc, où on retrouve d'ailleurs Patrick aussi, etc. Alors Vision, oui, vous ne connaissez pas non plus.
Bah non.
Vision, c'est la grande vision, la grande vision actuelle de Gonzague Mullier, c'est un grand amateur de golf. Et donc, il voulait faire des golfs un petit peu partout en France. Bon, il s'est fait ramasser du côté du Touquet parce que les élections, ça n'a pas bien marché, etc.
Il continue.
Mais il a continué à aller vers la France, mais plus bas et dans des coins un peu plus accueillants du côté de Bordeaux, etc. Ou donc, avec son associé turc, qui est un promoteur et surtout un architecte. Donc, il fait quoi? Ben, il fait des immeubles de standing, il fait des golfs, etc., avec tout ce qu'il faut derrière. Mais c'est quand même du golf... De qualité.
C'est pas du golf
public. Et en même temps, cette société-là investit énormément dans l'immobilier de loisirs pour des gens assez aisés, notamment en Turquie. Et donc on est sur actuellement à peu près 130 millions d'euros d'investissements qui ont été faits depuis 3-4 ans, pas plus, hein. 130 millions d'euros comme ça.
Et c'est rentable, ça.
Pour l'instant, pas du tout. Ils ont perdu 130 millions d'euros sur les 130, pratiquement. Mais...
Et tu voudrais qu'ils payent des impôts?
Ben justement, non. Voilà. Et on ne peut pas leur faire payer d'impôts. Ils sont en train d'investir de façon fondamentale et on veut encore leur faire payer des impôts.
Ah ouais, c'est lamentable.
Sauf que dans tout système immobilier, c'est le début, bien entendu, où vous sortez l'argent, c'est après que vous amassez des fortunes considérables avec les locations, les reventes, etc.
T'as pas pu faire autrement que de revenir sur Mullier, reviens donc sur notre copain.
Donc, je voudrais quand même terminer sur
Arnaud. C'est une
obsession. Arnaud, mais c'est la même chose, je veux dire. Leur système est exactement
c'est
le même. Donc on est sur un système
c'est
où...
C'est les mêmes requins.
Bah oui, le système fonctionne comme ça. Donc là, on est avec ça, avec un contrôle de cela. Et donc il y a bel et bien le statut d'exilé fiscal. Et le journal était assez intéressant puisqu'il indiquait en sous-titre un parfum de paradis fiscal avec Arnaud. Donc ils avaient très très bien compris. Mais ce qu'il faut regarder, c'est la déconstruction de ce que disent les journalistes. Les journalistes répètent tous la même chose sur tout. On parlait tout au début de l'émission sur l'ANI. Tout le monde parle de l'ANI comme étant quelque chose de génial.
Les éléments de langage.
Comme étant la nouvelle flexi-sécurité à la mode française dans le nouveau modèle social français. J'ai jamais rien entendu comme bêtise depuis très longtemps à ce sujet-là. C'est pas un modèle social qu'on est en train de faire, c'est une casse sociale. Donc on est en train de casser tout un ensemble de systèmes qui sont extrêmement importants pour la protection des salariés en France.
Hein et qui vont, amplifier la crise économique.
C'est évident, après, à partir du moment où il suffit de regarder l'évolution du chômage, il suffit de regarder l'évolution des revenus, etc. On va avoir... jusqu'à présent, c'était la consommation, donc les ménages, qui continuaient à maintenir la croissance.
Ça, c'est une théorie, en économie, ça ?
Ah, c'est pas une théorie en économie, c'était la réalité. C'est-à-dire que quand on regardait la structure des dépenses françaises, comme l'investissement des entreprises était relativement limité, comme les dépenses de l'État, elles sont en veilleuse parce que l'État n'a plus de sous pour investir, les trois moteurs d'une économie, c'est l'investissement de l'État et des entreprises, et c'est la consommation. Or, si la consommation diminue maintenant, le troisième moteur, il casse. Et donc le PIB, c'est l'ensemble de ces possibilités de croissance-là. Si le PIB n'a plus de moteur au niveau de la consommation, c'est fini.
C'est facile à comprendre, ça, pourtant.
C'est très facile à comprendre. Le dernier moteur, c'est si tu es compétitif, tu peux exporter. Et là, tu exportes à l'étranger. Et là, on n'est même pas compétitif. D'après ce qu'ils disent, hein, c'est pas vrai d'ailleurs. Mais enfin, bon, quand on regarde les investissements étrangers en France, ils n'ont jamais été aussi importants. C'est la preuve qu'on n'est pas aussi méchant que ça en termes de salaire, de conditions de travail, de casse sociale ou tout ce qu'on veut. Je veux dire, on est bien dans un système où les entreprises étrangères viennent en France. On pourra faire un point là-dessus à l'avenir.
Hein, donc, on ne nous dit pas tout.
Bah, c'est certain. Claire.
Voilà. Bon, Benoît, je crois qu'on est arrivé au terme. Ouais. Et effectivement, encore une fois, on n'a pas pu parler de Mittal.
Mais on reviendra sur Mittal, parce que Mittal va revenir dans l'actualité, je crois, bientôt.
D'accord. OK. De toute façon, on va faire une page sur le site web de Radio Campus Lille avec, les informations, les noms des sociétés ou autres. Et il y a aussi ton blog dont on peut trouver la
l'adresse. Oui, il suffit de demander. On peut mettre des petits mails, comme on l'a fait là, par exemple, pour Mako. Je répondrai sans problème.
Et tous les excellents bouquins que tu as déjà pondus.
Oui, mais ça, ouais.
Aux éditions Étain-Puits.
C'était prémonitoire.
C'était prémonitoire.
Oui, il va y avoir. Oui, tu dis que c'est prémonitoire pour m'accueillir la prochaine maison.
André, tu nous mets une petite chanson, les sucettes à l'ANI, non ?
Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête, mais j'avais préparé la chanson de Brigitte Bardot. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Il est passé par ici, il est passé par là. Qu'il est laid. Je ne sais plus. Je ne l'ai jamais passé, mais j'aurais dû.
Allez,
je la garde pour une prochaine fois quand on
se
reparlera
retrouve
de partir.
Le premier mercredi du mois dans ce magazine BCE. Dans quelques instants, vous retrouvez Louis et ses fenêtres sur le monde.
Au revoir. Au revoir et à la semaine prochaine. Je lance la chanson Louis. Oui, bien sûr.
Depuis qu'il y a cette crise financière, le dollar est au fond du trou et l'Europe est dans la misère. Elle commence à fuir de partout. La bourse n'arrête pas de s'affoler et les pays se mettent à couler. Il y a la Grèce qui dégraisse, l'Italie qui la suit, en Espagne sa castagne, l'Angleterre c'est l'enfer, en Irlande ils se pendent, il y a la France qui dépense, les Allemands pas contents, en Belgique c'est critique, en Pologne c'est la grogne, les Roumains tendent la main, les Slovaques tous patraquent et les Tchèques sont en bois, les Danois aux abois, les Bulgares tous s'agarrent, en Autriche ils pleurnichent. Ah bon Dieu que c'est embêtant, le système est patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, on a le nez dedans. Oh. pour éviter l'inévitable. Ce téléphone entre présidents, sans cesse collés à leur portable, on dirait des adolescents. Ils se disent qu'il faut faire quelque chose, en attendant pendant qu'ils causent. Il y a la Grèce qui dégraisse, l'Italie qui la suit, en Espagne sa castagne, l'Angleterre c'est l'enfer, en Irlande ils se pendent, il y a la France qui défonce, les Allemands pas contents, en Belgique c'est critique, en Pologne c'est la grogne, les Roumains tendent la main, les Slovaques tous patraquent, et les Tchèques sont en bois, les Danois aux abois, les Bulgares tous agarrent, en Autriche ils pleurnichent, dans le monde même fronde, l'Amérique coule à pic, le Japon touche le fond, en Afrique jamais de fric, et l'Asie s'en roussit. Ah bon Dieu que c'est embêtant, le système est patraque. Ah bon Dieu que c'est embêtant, on a le nez dedans. Barack Obama peut rien faire, et Sarkozy peut encore moins. Mais avec Merkel, ils savent faire, à nous faire croire que tout va bien. Mais nous, on n'est pas des idiots, on voit la tête de Barroso. Là, les genoux qui sont mous et les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent sur ses chevilles, ils se tortillent, les rotules qui ondulent, parce que lui, c'est aussi qu'il y a la Grèce qui dégraisse, l'Italie qui la suit, en Espagne, sa castagne, l'Angleterre, c'est l'enfer, en Irlande, il se pend, il y a la France qui dépense, les Allemands pas contents, en Belgique, c'est critique, en Pologne, c'est la grogne, les Roumains tendent la main, les Slovaques tous patraquent, et les Tchèques sont en bois, les Danois aux abois, les Bulgares tous gare, en Autriche, je suis pleurniche, dans le monde, la même fronde, l'Amérique coule à pic, le Japon touche le fond, en Afrique, jamais de fric, et l'Asie s'enroussit, au final, triomphale, la Russie s'enrichit, le Brésil lui jubile, les Indiens, tout va bien, et la Chine, elle domine. Ah, mon Dieu, que c'est embêtant, le système est patraque. Ah, mon Dieu, que c'est embêtant, on a le nez dedans.